du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. De 1960 à nos jours, la Côte d'Ivoire a connu un important recul de sa couverture forestière qui est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 3 millions d'hectares et demi en 2015. Les causes de ce recul sont connues. L'agriculture extensive, l'exploitation mal maîtrisée des forêts pour satisfaire les besoins de bois d'œuvre et du bois d'énergie et l'insuffisance de la capacité de la puissance publique à faire respecter sur le terrain ces textes censés protéger les forêts. Aujourd'hui, deux forêts classées illustrent parfaitement ce terrible constat. Ce sont les forêts du Cavali et du Guindébé dans la région de Guiglo, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Libéria. Deux forêts classées, deux problématiques différentes, mais avec le même résultat, déforestation, accaparement des terres, esclavage moderne et parfois même la mort. Quand notre reporter Igor Strauss s'est rendu sur place début novembre, un jeune guéré venait d'être assassiné. Selon un décompte fait par les habitants, c'est le 12e mort dans la forêt du Guindébé. Alors comment en est-on arrivé là? Comment expliquer cette crise entre deux ethnies qui vivaient jusqu'alors dans une parfaite harmonie? Guindébé et Cavali, un cacao au goût amer, c'est un reportage d'Igor Strauss.
Oui, je suis Thierry Fidel. Je suis un riverain de la forêt classée du Guindébé. C'est une forêt qui fait 133 000 hectares. Son infiltration a débuté depuis les années 70 par des paysans baoulés. Et jusqu'en 2010, la forêt était vraiment presque finie. C'est-à-dire qu'il n'y a que du cacao. Aujourd'hui, où je vous parle, il n'y a que du cacao dans la forêt classée du Guindébé. Il n'y a même pas une seule relique de forêt dans la forêt classée du Guindébé. Après la crise post-électorale, donc en 2011, donc, Salam est arrivé. Salam, c'était un ancien chef de guerre qui a combattu aux côtés des FSCI. Et c'est des gens qui ont été démobilisés. Donc c'est ce Salam-là, quand il est arrivé, il a dit que la forêt classée du Guindébé et la forêt classée du Cavali étaient un butin de guerre. Donc quand il est venu, il a même rançonné un certain nombre de baoulés même qui avaient déjà leur parcelle à qui il a fait payer de l'argent. Et donc, quand il est arrivé, les parcelles qu'il a trouvées, c'était environ 9000 hectares. Il a installé des Burkinabés dedans et ces Burkinabés-là ont fait du cacao. Donc, sur une superficie de 9000 hectares. Et Salam, quand il s'est aussi attaqué à la forêt classée du Cavali. À la différence des Guindébé Cavali, là, ils sont venus essentiellement avec des armes. Ils ont Cavali, ils ont conquis Cavali. Donc, c'est au fort de ça que les gens ont vu, le gouvernement a vu que c'était un danger. Et comme la situation était en train de revenir progressivement au calme, il a été mis aux arrêts parce que les gens l'ont trouvé en possession d'armes de guerre. Et donc Salam a été emprisonné vers fin 2013. Voilà comment le conflit en lui-même a débuté. Quand Salam a été emprisonné, les violences continuaient sur les Burkinabés parce que les Baoulés maintenant voulaient reprendre toutes les parcelles où Salam avait installé des Burkinabés. Donc déjà en 2013, il y avait déjà eu des morts. Et c'est de la prison qu'il a fait, il a reçu les leaders des jeunes guerriers. Donc c'est M. Roger Balia qui a rencontré Salam.
Bonjour M. Roger Balia.
Bonjour monsieur. J'ai rencontré Salam en prison avec deux de mes frères. C'est en prison, il nous a dit, je suis en prison pour 10 ans. Après les 10 ans, j'ai interdiction de séjour de 5 ans sur le territoire ivoirien. Donc, je ne peux pas concevoir que ce que j'ai planté, ceux qui m'ont chassé de là. Et pendant que je suis en train de vous parler, j'ai beaucoup de mes petits qui sont morts en brousse là-bas. Il y a 7 personnes qui sont mortes en 2013, qui ont été tuées par des baoulés. Donc, je ne peux pas être là, en prison, et puis savoir que cette plantation-là est dans la main des baoulés. C'est comme ça qu'on est rentré. Et on a essayé de réunir nos frères et on leur a dit, bon, rentrons en négociation avec les baoulés. Et c'est ce qu'on a proposé aux baoulés et les baoulés ont refusé. Ils ont dit que c'est pour eux. Ils ont tenté même de corrompre certaines personnes parmi nous. On va vous donner 5 millions par personne chaque mois. Et les gens ont dit non. On ne parle pas de 5 millions. On dit on veut les 9000 hectares. Ils ont refusé. Et c'est là qu'il y a eu problème. La première discussion chaude même entre eux et nous, c'est là que ça s'est passé.
Je suis Yaya Octave, cadre de la région de Kabali.
Alors, est-ce qu'il est normal qu'un chef de guerre emprisonné, condamné, puisse décider à qui reviennent ces terres?
Oui, ce n'est pas normal, mais c'est le désordre. Et c'est les effets collatéraux de ce désordre. Parce qu'on est dans un état quand même organisé. Il n'est pas normal qu'une forêt déclarée, forêt classée, soit occupée par une communauté sans que l'État ne réagisse. Où elle est classée, où elle n'est pas classée. Quand on dit une forêt classée, la forêt d'abord c'est la propriété des propriétaires terriens. La forêt est un propriétaire. Et la terre qui est dans le Kavali appartient au Ouai. Donc on ne laisse pas une autre communauté la détruire sans réagir. Donc ce n'est pas normal que ces gens-là aussi, les Baoulés, ils soient et qu'ils cultivent et que l'État de Côte d'Ivoire regarde, fait, on vend le cacao. La Côte d'Ivoire aussi bénéficie des retombées de ce cacao sans que personne ne soit dérangé, sans que personne ne soit hébété. Ce n'est pas normal. Donc dans ces conditions aussi, Salam Ouedraogo, Yaméogo, qui est un chef de guerre, qui occupe sans que personne ne réagisse pendant 3 ans. Ça aussi, ce n'est pas normal. Donc, le même désordre continue.
Mais, monsieur Fidèle, quelles sont les relations entre les Baoulés et les Guérés dans la vie de tous les jours? Là, je parle du commun des mortels.
Il y a de très bons rapports. En tout cas, il y a une bonne cohabitation entre les deux groupes ethniques. Une très bonne cohabitation. Le problème a survenu juste pour cette histoire de 9000 hectares que les guerriers revendiquent. Au fait, ce n'est pas tous les Baoulés même. Il y a un certain nombre de Baoulés qui ont pris fait et cause pour les autochtones guerriers. Il y en a même qui ont vu leurs maisons incendiées. Il y en a qui ont été battus, des Baoulés qui ont été battus. Ça veut dire qu'au niveau des Baoulés, déjà, il y a une division. Il y en a qui disent, il y en a qui ne sont pas jusqu'au boutiste. Il y en a qui reconnaissent, par exemple, que non, mais au moins les 9000 hectares, là, dans les 133000 hectares, là, en tout cas, cédons ça aux autochtones. Puisque dans les 133000 hectares, les autochtones n'ont rien eu. Donc il y a un groupe de Baoulés qui s'est levé, qui a dit non, cédons les 9000 hectares aux guerriers. Et ils ont connu toutes sortes d'actions de la part de leurs frères.
C'est pas du vent, c'est l'environnement sur RFI. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Mon nom m'appelle Kwadjo Aou Lucie. Bon, les gens, il y avait des jeunes Baoulés qui ont dit mon mari a logé les guerriers. Donc ils sont allés un dimanche matin, donc ils sont partis, ils m'ont dit de faire sortir mes choses qu'ils vont casser la maison.
Bon, je suis Kwasi Kwame Fulgence. Ils sont venus dans les deux campements à Kabouko et Kwadjokweko, venus casser tout ce qui était chez nous, voler nos panneaux solaires, télévision, nos cacao stockés.
Ils ont commencé à tirer les fusils. Il y a des fusils, on prend aller à la chasse et il y a des calas, il y a tout dans leurs mains.
Oui, parce qu'on a hébergé une nuit, on a hébergé la guerre une nuit chez nous, ils ont tout cassé. Nos maisons, tout ce qui était dans le village, les poulets, tout, ils ont tout emporté. Et moi, après m'avoir battu, même si j'ai encore des traces sur le dos, moi, parce qu'ils m'ont tout, ils ont tout pris, tout ce qui était sur moi. Je suis venu à Zanier vide.
Parce que vous, vous êtes Baoulés,
oui.
Mais vous, vous vous entendez bien avec les guerriers, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Vous voyez, quand mon mari est venu ici, ça est eux, ils travaillent. Donc, on n'a aucun problème avec eux. Et il dit pourquoi nous on n'a pas problème avec les guerriers aussi. Donc c'est ça, ils sont allés tout détruire. Ils ont tout gâté. On avait des télés, les trucs de bon, ils ont tout gâté. En tout cas, ils ont tout cafouillé. Il n'y a même pas aucun chose qui était resté.
Moi c'est Glace Saint-Fort Amour. Ils ont commencé à menacer, sortez d'ici. Bon, celui qui vient discuter avec toi, c'est en ville ici on discutait, mais en brousse, même si on devait discuter, il y a une manière de venir. Mais ils venaient avec des cris de guerre et des armes. Tout le monde a compris que vraiment, ils étaient venus pour faire la guerre. Ils ont commencé à tirer d'abord en l'air. Personne ne voulait replier. Ils ont commencé à tirer maintenant sur les gens. Et c'est comme ça que les jeunes guerriers ont commencé à sortir, puisque déjà on enregistrait pas mal de blessés. Même il y a un jeune, même de Zoro, à qui, vraiment vous allez m'excuser, pendant qu'on les a mis nus, totalement nus, un traitement inhumain, et à qui ils ont tiré les couilles. Il y en a qui ont été blessés juste à présent, qui suivent encore des traitements. Mais après tout ce qui a été fait, personne n'a osé poser plainte. Même si on arrive à la gendarmerie, bon, on ne sent même pas que la chose est prise en considération. Ça reste comme ça, toujours impuni.
Les gendarmes ont dit que non, vu la situation actuelle, vraiment il serait difficile d'aller appréhender quelqu'un là-bas, le faire sortir de la forêt pour le faire venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être dans la forêt coulassée du Gouindébé, c'est comme si tu étais dans un autre état. Parce que personne ne peut aller te chercher là-bas pour venir avec toi. Donc tu peux aujourd'hui là, tu peux commettre un crime et puis aller t'asseoir dans le Gouindébé. Personne n'ira te chercher. Donc tu es libre. Donc la dernière fois, quand le ministre Anne Loto est arrivé pour calmer les deux parties, début novembre, elle avait entrepris de faire des consultations pour régler le problème de façon définitive. Trouver une solution et qui arrange les baoulés et qui arrange les guéris. Donc, c'est dans l'attente de son retour là, que le président des jeunes libéraux, Nguéré, a été fusillé. À chaque fois qu'il y a un accord, il y a un événement qui vient pour remettre l'accord en cause. C'est ce qu'on constate. Et donc, c'est pour cela qu'on fait la proposition de dire, pour qu'il y ait accord, il faut que justice soit rendue.
C'est vrai que Anne Loto est du gouvernement, Madame la ministre, mais elle n'est pas venue intervenir en tant qu'envoyée du gouvernement. Elle a intervenu en tant que fille de la région. Elle veut que la paix revienne totalement dans les deux populations, mais n'est pas venue en tant qu'envoyée du gouvernement. Donc pour moi, jusqu'à présent, en tout cas, l'État n'a encore pas pris de décision.
Et comment vous l'expliquez ça? Est-ce qu'il y a des intérêts supérieurs selon vous?
Forcément. Parce que même quand vous écoutez Prince vous parler, tu sais qu'il n'est même pas ébranlé, même pas à cette histoire de forêt classée.
Donc Prince, c'est le chef baoulé.
Prince, c'est le chef baoulé. C'est celui même qui a tout engendré. C'est celui par qui tout est né aujourd'hui. C'est celui-là. Quand il vous parle, tu sais que le monsieur André, il a un manteau en fer qu'il porte. Il ne se sent même pas ébranlé par la situation. Il n'a ni peur du gouvernement, ni peur même des riverains qui sont tuteurs. Il ne parle pas de ça. Sinon, pour un individu, quand même, qui se retrouve avec des armes, qui fait plusieurs fronts, qui est toujours armé, allez comprendre. Il y a une main occulte quelque part qui est en train d'embrouiller la zone.
En fait, la situation aujourd'hui, c'est que les guerriers crient vraiment à l'injustice. Du fait que le gouvernement, en tout cas, est dans l'incapacité, en tout cas, de faire parler les textes de loi. Je vais vous raconter une histoire qui a créé le déclic, qui a fait qu'aujourd'hui, les guerriers, par exemple, ont commencé à revendiquer. En 2014, on était à un atelier organisé par une grande ONG de la place, quand un juge d'instruction a proposé au commandant de l'assaut des forts d'alors, colonel Fettet, c'est l'assaut des forts qui est en charge la gestion des forêts classées du pays, de la Côte d'Ivoire. Elle est en charge 231 forêts. Le juge d'instruction lui a fait une proposition. Il dit, vous dites que la forêt est infiltrée à près de 95%. Vous voulez déguepir les gens. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique du gouvernement de vouloir déguepir tous ceux qui sont en forêt classée? Je vais vous donner une stratégie que vous devez employer. Comme ça, on verra si le gouvernement a vraiment envie que la forêt classée du Gouindébé soit libérée. Intenter un procès à tous les grands planteurs de la forêt classée du Gouindébé. Et donc, colonel Fettet a pris acte et il a entrepris de recenser tous les grands planteurs de la forêt classée du Gouindébé. Il avait au total 52 planteurs. Parmi ces 52-là, il y avait 45 baoulés. Le premier procès a eu lieu, il a été reporté. Ils ont envoyé 3 avocats. Le deuxième procès a été reporté. Avant d'arriver au troisième procès, le commandant de l'unité de gestion de l'assaut des forts qui est chargé de Gouindébé a été muté. Et depuis qu'il est parti, il n'y a plus de procès. En tout cas, l'affaire est restée en suspens. Et donc, on comprend aisément que les gens n'ont pas... effectivement, il n'y a pas de volonté politique pour libérer la forêt classée du Gouindébé.
Tout le monde sait qu'ils sont dans cette forêt classée, mais personne n'a daigné les mettre dehors. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis le président Foué Boigny en passant par le président Bédier, le président Guy Robert, le président Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui au président Alassane Ouattara, ils n'ont jamais été inquiétés. On s'est dit quoi? C'est l'État qui est le propriétaire de cette forêt. Comme elle est forêt classée, donc elle appartient à l'État, il revient donc à l'État de la surveiller, de la protéger. Et si l'État ne le fait pas, nous, il ne revient pas aux populations autochtones de le faire.
Le président Henri Konan Bédier a la majeure partie de ses fioles ici. Ils sont de Daoukro.
Daoukro, c'est le village de Henri Konan Bédier. Mais c'est en région centre-est, hein, c'est à l'opposé d'ici.
Voilà. Et la majeure partie de ceux qui sont dans cette forêt classée-là, dans les 133 000 hectares-là, sur 100 baoulés, tu peux compter 80 baoulés de Daoukro. Donc quand tu as un problème avec eux, à tort ou à travers, ils te disent que ce que tu vas faire là, ça va accoucher d'une souris. Parce qu'on a le président Bédier derrière nous.
Oui, mais Henri Konan Bédier n'est plus président maintenant.
Mais c'est un grand du pays. Il n'est plus président. Mais quand eux, ils te disent, le procès que vous voulez nous intenter là, ça ne va pas aboutir. Effectivement, quand vous intentez le procès, arrive un moment, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu vas frapper à toutes les portes se sont fermées. Donc on s'est dit qu'ils ont raison. Voilà.
Aujourd'hui, le constat, c'est que certaines autorités même sont propriétaires de plantations là-bas, paraît-il. Du coup, tout le monde a le dos au mur. Et pour trouver la solution, c'est difficile. Parce que si toi qui dois décider, toi-même tu es occupant, c'est un peu c'est difficile à résoudre. Voilà ce qui fait que le problème aujourd'hui, là, il perdure. Parce que sinon, après, c'est une forêt classée, on déguerpit tout le monde. On met tout le monde dehors et puis on détruit les plantations et puis c'est tout. Où elle est classée, où elle n'est pas classée.
Donc, mais pourquoi on ne le fait pas ça, justement, de déguerpir tout le monde?
Si l'État ne le fait pas, peut-être que l'État y a des intérêts. Parce que 133 000 hectares, il y a plus de 1000 hectares de cacao. Et si les 1000 hectares de cacao, ça ne rapporte rien à l'État de Côte d'Ivoire. Si ça rapporte beaucoup à l'État de Côte d'Ivoire, l'État ne peut pas se permettre de détruire. Sinon, en réalité, depuis longtemps, ces plantations seraient détruites. Et puis, on ne parlait plus de cette affaire. Mais si ça a perdu, qu'on ne trouve pas de résolution, c'est que là, l'État a un intérêt là-dedans.
Un intérêt dans ce qu'on pourrait appeler le cacao du sang, puisqu'il y a des morts et il y a de la déforestation.
Oui, bon, le cacao du sang, je pense que c'est pas trop juste parce que depuis 2013, les gens y sont, il n'y avait pas de sang. Donc c'est les effets de la crise que notre pays a connue. Voilà.
Les baoulés, c'est vrai, ce sont nos frères. Mais quand même, en état djiglo, ils sont quand même étrangers. C'est parce que nous sommes tous ivoiriens, on vit tous à l'aise. Mais c'est pas pour cette forêt, ils vont totalement, bêtement tuer les jeunes guerriers. Nous pouvons aujourd'hui enregistrer plus de 12 morts côté Guéré. Des blessés aujourd'hui qui se trouvent actuellement à la PISAM sous charge présidentielle. Non, allez-y, comprendre que vraiment les jeunes Guérés sont en train de souffrir et mourir. Aujourd'hui, on veut bien vivre ensemble. Eux aussi, ils n'ont qu'à nous aider à pleurer moins nos parents.
Restez avec nous dans 3 minutes, juste après le flash d'info. Nous irons dans la forêt classée de Cavalli, la petite sœur de la forêt du Guindébé. Si la problématique y est un peu différente, le résultat est le même. Une déforestation sans limite qui menace l'existence même de l'une des dernières forêts classées de Côte d'Ivoire. A tout de suite.